Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose de manière fortuite ou non sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre. Rencontre avec Alice Zeniter, l'autrice de Frapper l'épopée. J'ai eu la chance d'interviewer en direct Alice Zeniter, l'autrice de Frapper l'épopée au Salon du Livre du Mans, Faites lire, grâce à la FRAMA, la Fédération Régionale des Radios Associatives de Maine-Anjou. Deuxième partie de la rencontre avec Alice Zeniter. Alors la première fois justement qu'on rencontre les jumeaux, Pénélope et Célestin, c'est à l'occasion d'un cours de lettres. Ils sont en première STMG, c'est particulier aussi ça, hein, je suis professeure de lettres, donc c'est particulier, cette section est particulière, et ils étudient l'île des esclaves. Est-ce que vous pouvez, étant donné que c'est au début du roman, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a d'intéressant? Moi j'ai trouvé ça vraiment super intéressant, la lecture qui est faite par le professeur Tasse et par Pénélope et Célestin.
Ben en fait, ce qui est fascinant dans la pièce de Marivaux, c'est qu'on se dit, il l'écrit au moment où la France, elle est en plein dans l'extension de son empire colonial. Alors plutôt tourné vers les Amériques à ce moment-là. Mais ce qu'il écrit en fait, c'est donc l'arrivée de d'Européens. On se fait, ils ont des noms à moitié grecs, en même temps un peu de la Commedia dell'arte, donc italien aussi. Donc des Européens qui arrivent sur une île perdue au milieu de nulle part et qui sont en fait obligés d'adopter les coutumes locales et d'inverser les rapports maître et serviteur. C'est ça l'intrigue de la pièce de Marivaux. Et donc il écrit ça à un moment où en fait en réalité ce qu'on voit c'est qu'il se passe exactement le contraire. C'est-à-dire quand les Européens arrivent sur un territoire, ils imposent leur mode de vie. Et du coup je me disais, étudier l'île aux esclaves quand on est d'un peuple qui a été colonisé sur une île et que les Européens, en arrivant, nous ont acculturés, c'est pas du tout la même chose que quand moi, je l'ai étudié au collège d'Ancine ou au lycée à Alençon, en fait. C'est pas du tout le même rapport à ça. Et donc, le texte, sans qu'on en bouge un mot, change complètement de nature. Et puis, il y a une autre chose qui est, dans ce texte, Arlequin dit à son maître, en fait, qu'il a jamais partagé ses peines. Enfin, c'est-à-dire que lui, Arlequin, a partagé toutes les peines de son maître et que jamais son maître n'a partagé le moindre chagrin d'Arlequin. Et il exprime cette chose qui est que l'empathie ne fonctionne que dans un sens. Et que les faibles ont été socialisés pour être capables d'éprouver de l'empathie pour les forts, alors qu'on pourrait se dire que les forts n'en ont pas besoin, et que les forts n'éprouvent pas d'empathie pour les faibles. Et le thème de l'empathie, c'est quelque chose qui va revenir quand même beaucoup dans ce roman.
Lecture de Marivaux dans le roman et rencontre avec Pénélope et Célestin. Les deux élèves en charge de l'exposé suivant, un garçon et une fille, s'installent avec lenteur derrière le bureau et la fille commence par un « voilà », comme à peu près tous les élèves que Tasse a vus défiler depuis qu'elle est en poste. Lui porte un pendentif compliqué à l'oreille qui se termine par une longue croix en argent, peut-être un symbole égyptien, et lui frôle presque la clavicule. Il parle d'une voix si grave et si chuchotée qu'on dirait parfois qu'il gronde, comme un roulement de tonnerre lointain qu'on n'est pas sûr d'avoir entendu. Tasse a besoin de quelques minutes pour comprendre que ces deux-là sont jumeaux. Dans un premier temps, elle a simplement l'impression que ses yeux ne parviennent pas à faire la mise au point. Il y a quelque chose d'étrange dans leurs visages similaires et pourtant opposés, ce qui fait qu'il est un garçon splendide, les mêmes traits, exactement, rendent sa sœur plutôt laide. Lors de la lecture, il fait Arlequin, le serviteur, elle fait Iphicrate, le maître. C'est elle qui ouvre la scène par cette question. « Tu m'aimes et tu me fais mille injures ?» Comme tous les élèves que Tasse a vus depuis 2 ans, il plasmodie étrangement les phrases exclamatives qui ponctuent la dispute des deux personnages, aplatissant leur déroulé avec application pour hausser subitement la voix dans les aigus sur la dernière syllabe. Stas peine à masquer la grimace gênée que lui inspirent ses fins montantes. Le garçon lit. Tu veux que je partage ton affliction, et jamais tu n'as partagé la mienne. Sur la dernière partie de la phrase, alors que jusque-là, il a tenu les yeux baissés sur ses notes qu'il tripotait jusqu'à les rendre humides, il relève la tête et croise le regard de Stas. Et jamais tu n'as partagé la mienne, lui arrive doucement sur le visage, comme une toile d'araignée au matin, tendue entre les buissons du jardin. Il continue, lancé dans une tirade épargnée par les points d'exclamation, sans se hâter, mais sans penser non plus à reprendre son souffle, et c'est d'une voix presque mourante qu'il lit « Je ne te ressemble pas, moi. Je n'aurai pas le courage d'être heureux à tes dépens. » Là encore, son regard vient croiser celui de Stas. L'adresse directe la trouble. Frères et sœurs entreprennent après la lecture de dérouler un exposé rigide mais pertinent. Ils évoquent la générosité d'Arlequin, son aptitude au pardon, le pied d'égalité qui se met en place dans les constructions de phrases opposant Iphicrate et son serviteur. « Il y a un toi et un moi, » dit la fille. « Ça ne doit pas arriver souvent que le serviteur ait le temps d'avoir un moi. » Stas la reprend. « Vous voulez dire le droit ?» L'adolescente a un léger haussement d'épaules, comme s'il s'agissait de la même chose. Pourquoi, à votre avis, Marivaux écrit-il un dénouement pareil? Pourquoi l'échange de vêtements, à nouveau? Pourquoi le retour à la situation de départ? La réponse que Stas attend touche au conservatisme de Marivaux, derrière les grands idéaux exposés, conservatisme de la bourgeoisie, qui aurait beaucoup à perdre si les pauvres prenaient réellement la place des puissants. Conservatisme des théâtres où ces pièces sont jouées et exposées toujours à la censure. Conservatisme de la forme elle-même, la comédie, à la fin convenue. Mais le garçon à la croix, qui se balance, murmure qu'il ne sait pas. Qu'il imagine, enfin, voilà, s'il a bien compris, Marivaux dépend des aristocrates pour écrire et être joué. Il a lui aussi des maîtres et il est obligé de croire qu'ils sont bons, de croire qu'ils tiennent leurs promesses. L'adolescent cligne des paupières quand il réfléchit à voix haute. Il a de longs cils noirs et courbés. « Pourquoi obligé d'y croire ?» demande Stas. « Sinon ça lui ferait trop mal, sa vie deviendrait trop fragile, et il écrit des utopies, pas pour se faire mal. Vous l'avez dit, il écrit pour rêver, alors voilà !» Son utopie à lui, c'est que les gens riches tiennent parole, qu'ils en ont quelque chose à faire des gens comme lui. Il adresse un sourire triste à Stas. J'ai un peu de la peine pour lui, il dit. Surprise, Stas lui demande de développer. Mais après un court silence, c'est sa sœur qui reprend pour dire que ça fait forcément de la peine, un rêve si petit, alors qu'il aurait pu créer n'importe quoi sur cette île imaginaire. Elle a le même sourire que son frère, un mélange mélancolique d'ombre et de fossette. Lorsque le cours se termine, Stas regarde son trombinoscope pour apprendre le nom des jumeaux. Sur les photos en noir et blanc de mauvaise qualité, les visages ont des contrastes de films expressionnistes allemands. Les peaux brunes des Kanaks tournent au basalte. Il s'appelle Célestin, elle s'appelle Pénélope. On dirait que la pièce de Marivaux continue.
Alors justement, il est question d'empathie violente. C'est pareil, on l'apprend, on découvre cette expression au début du livre qui est une expression extrêmement mystérieuse, absolument incompréhensible. Je sais même pas si on le comprend en fait à la fin. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette histoire d'empathie violente ?
Alors l'empathie violente, c'est un terme inventé par un trio indépendantiste kanak que j'ai moi-même inventé, donc c'est un terme inventé par ces personnages inventés, mais dont l'idée, dont le mode de militance en fait est très particulier, puisque ce trio veut faire expérimenter, faire ressentir ce qu'est l'expérience de la dépossession. En fait, leur but est par une série d'actions assez diverses parce que eux-mêmes tâtonnent. En fait, ils savent pas très bien ce qui va marcher, ce qui va être une bonne action d'empathie violente ou une action un peu ratée d'empathie violente. Mais le but, c'est de venir faire trembler l'évidence du sentiment d'être chez soi. Il faut qu'on vienne un peu rendre étranger jusqu'au domicile des blancs qui sont pris pour cible. Et dans ce tremblement, comme ça. Alors les cibles de ces actions comprendront peut-être ce qu'éprouvent les Kanaks qui se sont finalement fait déposséder de leurs terres et placés dans des réserves et donc qui sont à la fois chez eux et pas chez eux sur l'archipel à cause de ces déplacements, de ces saisies de terres qu'a fait la colonisation.
Vous avez écrit ce roman avant les événements qui ont eu lieu. À Nouméa en particulier, et ça sonne quand même de manière très juste malgré tout. Vous parlez très très bien de la destruction de la mémoire, justement, de la manière dont on n'est pas sorti de la décolonisation et que, en fait, finalement, ça couve en fait la violence qui est advenue là, elle est encore là en fait. L'histoire de l'empathie violente, là, c'est ça.
Oui, mais c'est ce que dit un ruisseau. Donc, Arruisseau est un des membres du trio d'empathie violente et il a un peu ce fantasme. Il se voit animer une émission de radio. Il a ce fantasme-là. Il répondrait aux questions des auditeurs et des auditrices. Et à un moment donné, il imagine donc l'émission que ça donnerait et il imagine la question de quelqu'un qui dit voilà, qu'est-ce qu'on fait quand les Blancs nous disent qu'il est grand temps d'arrêter de parler de la colonisation? Et dit, mais en fait, c'est pas un sujet qui peut s'arrêter, puisque concrètement, je ne vis toujours pas sur les terres de mon clan. Les terres qui ont été prises, elles n'ont pas été rendues. Donc en fait, on vit dans l'immédiat après de la colonisation. Et tant que les choses ne seront pas réparées, parce que c'est le grand mot d'un ruisseau, la réparation, tant que les choses ne seront pas réparées, on ne pourra pas clore le sujet. C'est absurde de dire qu'on peut clore ce sujet.
Et donc, il s'agit... là, de dénoncer une jeunesse qui a abandonné. Mais moi, je me suis dit, il ne s'agit... j'ai eu l'impression que ça se passait ici aussi, quoi. Cette manière dont les jeunes sont livrés à eux-mêmes, ne sont pas écoutés dans leur rébellion.
Ben, en fait, Célestin et Pénélope, quand on regarde le roman d'un peu plus près, ils prennent très peu la parole. En fait, c'est beaucoup les projections des adultes sur eux. Et ces projections, elles sont différentes. L'école dit ils sont comme ça, il faudrait qu'ils soient comme ça. Le trio indépendantiste dit ils sont comme ça, il faudrait qu'ils soient comme ça. Neb dit ils ont perdu leur tradition. C'est une sorte de jeunesse kanak, mais décanakisée. Ils sont passent leur temps sur leur téléphone portable, c'est honteux. C'était mieux avant, etc. Et les gendarmes disent ils sont dangereux. Mais à quel moment quelqu'un les écoute vraiment, en fait? C'est vrai que c'est ça la question qu'on se pose, et c'est ça le drame de Célestin et Pénélope, c'est que les adultes veulent qu'ils soient ceci ou cela, et au fond, il n'y a pas beaucoup d'écoute pour leur détresse.
Oui, et même Tass se rend compte qu'en fait, la personne qu'elle a le moins regardée, c'est Pénélope, et qu'elle a trouvé l'aide, en fait, c'est le personnage le plus beau de l'histoire.
Ben oui, c'est ça. Tass, elle est malgré justement, à un moment, elle s'aperçoit que malgré son désir d'aider, d'abord, elle est un peu coincée dans son statut de prof remplaçante. Elle se sent pas très légitime. Et puis, elle est elle-même. En fait, elle est elle-même traversée par des affects coloniaux qui font qu'elle va projeter aussi des préjugés. Et alors que Célestin et Pénélope sont des jumeaux qui ont exactement le même visage, elle le trouve lui beau et elle trouve que Pénélope est laide et ça entraîne tous les préjugés aussi qu'on peut avoir envers les jeunes filles dont on se dit oh la pauvre, elle a un visage ingrat, c'est pas facile, et elle voit pas vraiment Pénélope du coup.
En fait, elle est belle, elle n'est pas ingrate, puisqu'elle est le double exact de son frère.
Oui, moi je pense que Célestin et Pénélope sont très beaux les deux.
En fait, c'est ouais. ce dont on se rend compte. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu répondre à mes questions et je vous recommande à tous de lire Frapper l'épopée.
Merci beaucoup.
C'était la dernière partie de la rencontre avec Alice Zeniter.